Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est midi et demi pile, bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur Europe 1, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Europe Midi, votre grand rendez-vous d'actualité de la mi-journée sur Europe 1. À la une, la maire d'une commune de Gironde, désemparée face au non-paiement de la cantine par une maman d'élève. La dette s'élève à 800 euros, l'enfant a finalement été renvoyé chez lui par la police municipale. La maire de Saint-Médard de Guizières sera en direct avec nous dans un instant et vous entendrez également la maman de l'élève. Éric Zemmour ne sera plus ce soir à l'antenne de CNews. Pourquoi ? La chaîne a été obligée de prendre cette décision à cause du CSA qui exige que soit décompté le temps de parole de l'éditorialiste alors qu'il n'est pas à ce jour candidat à la présidentielle. Quelles sont les questions que ça pose, notamment en termes de liberté, à 7 mois de l'élection ? On verra ça avec vous, Louis Dragnel. Alexandre Benalla face à la justice à partir d'aujourd'hui après les violences du 1er mai 2018. Il avait frappé des manifestants violents avec le brassard police. Est-ce que vous utilisez l'application Yuka pour faire vos courses ? Ça sert à connaître les qualités alimentaires d'un produit. Un professionnel de la charcuterie attaque l'application en justice aujourd'hui, car les mauvaises notes des produits charcutiers entraînent des ventes en nette baisse. On sera en direct avec un représentant de la profession de charcutier. Ça peut arriver à tout le monde d'oublier de payer la cantine des enfants. Ça peut arriver aussi d'avoir des problèmes de fin de mois et de demander un délai ou un étalement des paiements. Mais là, la mère de famille n'a pas répondu aux appels pendant de longs mois. Son fils a donc été raccompagné à la maison par un policier municipal. Avant d'être en direct avec la maire de Saint-Médard de Guizières, tout d'abord, Marion Gauthier avec nous. Bonjour Marion.
Bonjour.
Le récit, que s'est-il passé ?
Alors les faits remontent à jeudi dernier. C'est la pause déjeuner dans la petite école de Saint-Médard de Guizières, 2300 habitants à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux. Au milieu des parents qui viennent récupérer leurs enfants, c'est un policier qui attend un garçon de 7 ans. Pas de cantine pour lui, il faut rentrer à la maison. Une méthode révoltante pour la mère de famille célibataire. Sans emploi. Elle a vu se creuser sa dette depuis 2019. « Je sais ce que je dois », dit-elle, « ce n'est pas à mon fils de payer ».
On l'a humilié lui, alors que lui en soi, il est pour rien. C'est pas ses soucis, hein. Les dettes de cantine, tout ça, il est même pas au courant. Hein. Le midi, à l'heure où il y a tous les enfants, les parents, « Oh, la prison, les sirènes !» Parce que bon, on répète aux enfants que la police arrête les méchants, la police arrête les voleurs, quoi. Donc, c'est traumatisant pour lui. Mais.
800 euros, plusieurs centaines de repas non réglés, la maman l'admet. Elle raconte pourtant qu'elle a donné son RIB, qu'un prélèvement sur son compte a même été effectué en mai dernier. Elle assure avoir appelé la maire de la commune avant l'incident pour prévenir qu'elle allait rembourser une partie de sa dette. Un premier paiement prévu mercredi.
Merci beaucoup Marion. On est en direct avec vous, madame le maire. Bonjour.
Oui, bonjour.
Mireille Comte-Jaubert, maire de Saint-Médard de Guizières. Alors, on en est arrivé à cette histoire qui fait la une des médias aujourd'hui. Ça fait beaucoup réagir. Est-ce que la maman qui doit donc 800 euros s'est effectivement manifestée depuis que l'affaire est médiatisée ?
Pas du tout. Elle ne s'était pas manifestée avant. Elle ne s'est pas manifestée après. Elle a été depuis de nombreuses années, enfin depuis 2019, sollicitée pour régler sa dette. Elle n'a jamais répondu à nos courriers, ni même à nos demandes de rendez-vous. Donc le seul contact que j'ai eu avec elle, c'est juste avant la rentrée, parce que je lui avais envoyé un dernier courrier pour lui demander de régulariser sa dette, sinon son enfant ne pourrait pas rester à la cantine. Elle m'a appelé pour m'injurier, me menacer, me dire que si je ne gardais pas son enfant, elle ne paierait pas sa dette. D'où cette réaction un peu ultime que j'ai prise de façon à faire en sorte que cette aggravation s'arrête.
Oui, effectivement, non, il est hors de question et inadmissible d'insulter la maire d'une commune. On insulte d'ailleurs, on essaie d'insulter personne, mais encore moins la maire du commune. Ah oui, c'est comme ça qu'elle s'est comportée.
Voilà, et à aucun moment elle ne nous a fait part de ses difficultés. Si elle avait des difficultés, il fallait qu'elle nous le dise. On aurait, je pense, pu trouver des solutions. La seule, effectivement, elle est venue à un rendez-vous en avril, elle a donné un RIB, mais pour ne rien vous cacher, le seul prélèvement qui a été fait sur son compte a été rejeté. Donc, elle ne peut certainement pas se vanter d'avoir fait le nécessaire. C'est une partie, quand elle a donné son RIB, c'était pour assurer les dettes à compter du mois d'avril. Le seul paiement qu'elle a envisagé de faire, il était à hauteur de 26,95 €, et il a été refusé par son établissement bancaire. Maintenant, je voudrais revenir sur l'intervention du policier municipal. L'intervention du policier...
Oui, parce que c'est peut-être ce qui peut choquer, effectivement. Tout le monde est d'accord pour dire on paye la cantine. Voilà, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Est-ce que vous regrettez d'avoir demandé à un policier municipal d'avoir ramené l'élève ?
Pas du tout. J'assume totalement, oui. Totalement ce que j'ai fait, parce que ça s'est fait dans les meilleures conditions possibles, de façon à ce que l'enfant ne soit pas traumatisé. En fait, on a raconté une histoire à l'enfant. On lui a dit que sa maman avait oublié de prévenir qu'il ne mangerait pas à la cantine et que comme elle connaissait le policier municipal, elle l'avait chargé de le ramener. L'enfant est parti content d'avoir l'occasion de monter dans une voiture de police. Donc il n'a pas du tout, il avait le sourire, il n'a pas du tout été traumatisé par cette situation.
Vous nous dites que vous aviez pris le soin d'emballer voilà, cette histoire et de faire en sorte que ça reste une histoire de grand et pas une histoire qui choque le petit.
Exactement. Et même, il avait certains de ses copains d'école qui l'enviaient de pouvoir monter dans une voiture de police. Voiture.
Merci beaucoup. Merci.
On a envie de monter dans une voiture de police.
Merci beaucoup, Madame le maire. Mireille Comte-Jobert, merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin, ce midi, dans Europe Midi sur Europe 1.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
On touche à la démocratie. À 7 mois de la présidentielle, CNews, la chaîne d'information, est contrainte d'abandonner son émission avec Éric Zemmour à cause du CSA, qui exige que soit comptabilisé le temps de parole de l'éditorialiste. Éric Zemmour, qui n'est pourtant pas candidat à la présidentielle. Louis Dragnel, bonjour Louis.
Bonjour Romain.
Chef du service politique d'Europe 1. Le CSA empêche de fait un journaliste de s'exprimer ?
Eh bien, vous l'avez dit, Romain, tout le paradoxe est là. Éric Zemmour n'est pas officiellement candidat, il est éditorialiste politique. Et le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande que son temps de parole soit décompté comme un candidat à la présidentielle. C'est assez inédit, surtout que le CSA rappelle régulièrement sa mission de défense du pluralisme et de la liberté éditoriale des médias. Alors, il faut le dire aussi quand même, Éric Zemmour joue un petit peu sur les mots, car sa campagne s'accélère, tout se met en place, ses parrainages, son financement, son programme... Mais vous l'avez dit, tant qu'il n'est pas officiellement candidat, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Alors, in fine, il ne le dira jamais comme ça, mais cette décision pourrait plutôt l'arranger. Cette polémique le place au cœur des sujets de conversation. Et puis, vous savez, il publie jeudi son livre « La France n'a pas dit son dernier mot ». Il devrait ensuite enchaîner une série d'interviews, de plateaux de télévision pour en faire la promotion. Pour couronner le tout, l'éditorialiste vient de lancer sa propre chaîne sur YouTube pour continuer de s'exprimer. Un sacré pied de nez au CSA. Enfin, pour ce qui est de la présidentielle, Éric Zemmour ne devrait pas tarder, dans les prochaines semaines, à déclarer sa candidature. Son mouvement pourrait s'appeler Vox Populi, la voix du peuple, un nom qui ressemble à Vox, le parti de la droite conservatrice espagnole, en pleine ascension, qui compte aujourd'hui 52 députés.
Louis Dragnel, merci beaucoup Louis pour toutes ces informations. Et pendant ce temps, la primaire Les Républicains continue. Laurent Wauquiez fait un pas vers un soutien à la candidature de Michel Barnier. Il faut savoir que la voix de Laurent Wauquiez compte beaucoup chez Les Républicains. Wauquiez qui, à la télé Savoie News, a commencé par expliquer pourquoi lui-même ne se portait pas candidat. Écoutez.
Vous le savez, j'ai tenu à ce que la région soit à nouveau présente très fortement dans nos montagnes, sur nos territoires alpins. Et ça n'aurait pas été correct, après ça, de partir et de dire « Non, moi, c'est bon, je pars tout de suite et je pense déjà à l'élection présidentielle. » Donc, j'ai voulu prendre du temps, j'ai voulu me consacrer à notre région parce que les gens m'avaient fait confiance. Et on a quand même Michel Barnier qui va porter les couleurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les Alpes qui vont le soutenir. J'étais avec lui hier soir. C'est un grand monsieur.
Voilà, Michel Barnier, un grand monsieur selon Laurent Wauquiez. Voilà, c'est la solidarité alpine, la solidarité savoyarde. 12h39, restez bien avec nous sur Europe 1. On est bien ensemble dans Europe Midi. Dans un instant, on va parler d'Alexandre Benalla. Tiens, qu'est-il devenu? Que devient-il depuis l'affaire Benalla? Et puis, il passe devant la justice aujourd'hui. Toutes les informations de la rédaction d'Europe 1 avec Marion Dubreuil. À tout de suite.
Europe Midi. Romain des Arbres.
12h42, il était quelque peu sorti des écrans radars médiatiques et le voici à nouveau sous les projecteurs. Alexandre Benalla va être jugé à partir de cet après-midi pour ce qu'il a fait lors des manifestations du 1er mai 2018. On est en direct avec vous, Marion Dubreuil, depuis le palais de justice de Paris. Marion, déjà, expliquez-nous, qu'est-ce qui est reproché précisément à Benalla et quelle est sa défense ?
Eh bien, la justice lui reproche des violences volontaires. Le 1er mai 2018, Alexandre Benalla accompagne les policiers qui encadrent le traditionnel défilé. Or, le chargé de mission de l'Élysée sort de son rôle d'observateur, place de la Contrescarpe, où la situation dégénère entre manifestants et CRS. Brassard police sur le biceps, il brutalise un couple qui vient de jeter des projectiles sur les forces de l'ordre. Alexandre Benalla parle d'une interpellation. Sa défense invoque deux articles du code de procédure pénale qui autorisent une personne à appréhender l'auteur d'un flagrant délit pour le livrer à l'officier de police judiciaire le plus proche. La juge d'instruction a estimé que cette intervention n'était pas nécessaire compte tenu du nombre de CRS mobilisés. Enfin, Alexandre Benalla devra aussi se justifier sur l'utilisation de ses passeports diplomatiques plusieurs mois après son licenciement de l'Élysée.
Marion, autre question, que devient Alexandre Benalla depuis qu'il n'est plus dans l'équipe d'Emmanuel Macron ?
Eh bien, il s'est rapidement reconverti dans le privé à tout juste 30 ans. Ce père de famille est à la tête d'un groupe d'intelligence économique et stratégique. Impossible d'en connaître aujourd'hui le chiffre d'affaires. Alexandre Benalla multiplie en tout cas les déplacements à l'étranger, en particulier en Afrique. Pour lui, l'économie, c'est une affaire de relations, d'hommes et de connaissances. Serial entrepreneur, il a également fondé un institut, sorte de think tank de la sécurité. Enfin, l'an dernier, on lui prêtait même des ambitions politiques pour les municipales en Seine-Saint-Denis.
Marion Dubreuil, c'est Marion Dubreuil qui va suivre ce procès Benalla au palais de justice de Paris. Les premiers témoignages de policiers au procès des attentats du 13 novembre dans Europe Midi. Aujourd'hui, je voulais qu'on écoute ce témoignage recueilli par Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Témoignage de Jean-Baptiste, policier donc, qui est arrivé le soir des attaques, rue de la Fontaine au Roi, à Paris, où les terroristes islamistes venaient de tuer 5 personnes devant le bar La Bonne Bière et le restaurant Cosa Nostra.
Moi, je vois quelqu'un allongé au sol, donc je pense que c'est un accident de la route. Alors, je vois la personne allongée, je dis non, mais on va quand même, il y a quelqu'un qui est allongé, on va aller voir. Et donc, je descends de mon véhicule, on était 4. Et ben, après, là, on découvre l'ampleur de la catastrophe. Donc, les tables, voilà, les tables, les chaises, les téléphones au sol, les gens, il y a des gens qui crient, on nous sollicite de partout pour faire des premiers secours, les premiers soins. Et après, on fait ce qu'on peut. Et nous, à ce moment-là, on n'a qu'une peur, c'est qu'en fait, les tireurs sont encore là. Je me souviens, on avait dit, si ça ressort, on donnera tout et puis on videra les chargeurs, on fera ce qu'on peut, quoi. Moi, je n'avais jamais vu des blessures comme ça. Il y avait une personne qui avait eu la tête arrachée, en fait. On s'en est voulu beaucoup de ne pas avoir pu sauver plus de gens, quoi. C'est ça le problème. C'est ça qui nous a le plus travaillé. On s'est senti impuissants, en fait. Maintenant, je sais que je ne réagirais pas pareil. On les mettrait dans le véhicule, on partirait tout de suite à l'hôpital. Moi, je me dis que ça peut recommencer à tout moment. Je veux me tenir... je veux être prêt par rapport à là où c'était tellement soudain que j'y repense à chaque fois, parce que moi, c'est encore sur mon secteur de travail. Donc à chaque fois que je repasse là... Bon, on n'oublie jamais, mais on y repense bien sûr, parce qu'on repasse devant. Bon, malgré tout, dans la difficulté comme ça, il y avait de l'entraide. Voilà, c'était un côté un peu positif dans la soirée qui était terrible, quoi, à vivre.
Voilà un récit glaçant recueilli par Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.
Europe Midi. Romain Desarbres vous informe sur Europe 1.
On change totalement de sujet. Je voulais qu'on fasse un point sur les nouvelles règles de remboursement et d'annulation des billets de train. Ça a changé depuis quelques heures. Ces nouvelles règles sont en vigueur donc depuis ce matin. Aurélien Fleureau, bonjour. Expliquez-nous, Aurélien.
Bonjour, Romain. Alors, à partir d'aujourd'hui, ce qui entre en vigueur, c'est donc la nouvelle politique d'échange et d'annulation de la SNCF. C'est bien la fin du sans frais jusqu'à la dernière minute. Cela avait été mis en place en mars 2020, au tout début de la pandémie. Désormais, vous aurez jusqu'à 3 jours avant le départ de votre train Saint-Martin avec réservation pour changer d'avis gratuitement. Sinon, ce sera 15 euros par personne pour les TGV Inouï et jusqu'à 12 euros pour les Intercités. Une manière pour la SNCF d'amorcer un retour vers une situation plus normale. Les associations d'usagers auraient préféré du sang frais jusqu'à J-1 avant le départ, mais ce J-3, eh bien, ça reste plus avantageux que ce qui existait avant la crise. Et puis pour la SNCF, c'est le meilleur moyen de ne pas se retrouver avec trop de places inoccupées.
Merci beaucoup Aurélien pour toutes ces explications. Il est 12h47. Restez bien avec nous sur Europe 1 déjà parce qu'on est bien ensemble. Et dans un instant, on va parler de Yuka. C'est une application qui scanne les produits alimentaires. Vous connaissez peut-être déjà. Les charcutiers sont furieux contre Yuka. Je vous explique pourquoi dans quelques instants. Et puis on sera avec un représentant du secteur de la charcuterie. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h50, vous êtes peut-être à table. Est-ce que vous connaissez Yuka ? C'est une application qui permet de scanner les produits alimentaires dans les supermarchés et donc de connaître les qualités de ces produits. Problème, Yuka donne une mauvaise note à la charcuterie et un industriel l'attaque en justice. On est en direct avec Fabien Castagnier. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Fabien Castagnier, vous êtes délégué général de la FICT, la Fédération des industriels charcutiers traiteurs. Cette entreprise attaque cette application parce qu'en fait elle dit vous me notez mal, du coup les clients n'achètent plus mes produits. Alors ce que je voulais savoir, c'est déjà quel était votre point de vue en tant que fédération sur cette application Yuka. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je représente 300 entreprises françaises de charcuterie, dont 90% de PME. Et nous sommes favorables aux applications comme Yuka qui permettent de faciliter l'information aux consommateurs. Notre seule demande, c'est qu'une application qui influence l'acte d'achat de plus de 10 millions de consommateurs ne délivre pas une information subjective, mais que cette information soit juste et scientifiquement fondée pour que le consommateur ne soit pas induit en erreur. Donc les entreprises de charcuterie considèrent que les allégations relatives aux nitrites portées par l'application Yuka ne sont pas fondées scientifiquement et portent injustement atteinte à l'image et à la réputation de notre profession, de nos métiers, de nos salariés aussi, et des charcuteries.
L'entreprise, en l'occurrence, demande plus de 700 000 euros de dommages et intérêts, alors que Yuka gagne 20 000 euros par an. Ça veut dire que c'est la mort de cette application. Faut bien comprendre ça.
Nous, notre demande, c'est que Yuka continue d'informer le consommateur, mais avec des informations justes et scientifiquement fondées.
D'accord.
Et ça a été l'action de la FICT. Après, chaque entreprise a pu estimer à titre individuel, le préjudice qu'elle a estimé subir. Et donc, là-dessus, c'est chaque initiative dépend des entreprises.
D'accord. Et effectivement, tout le monde peut comprendre, il y a des emplois, et accessoirement, la charcuterie, c'est bon. Donc, il faut que tout le monde y trouve son compte. Mais je me disais, quand on vous fait un reproche, c'est jamais agréable, je peux confirmer, mais ça dit toujours quelque chose au fond. Est-ce que ça ne peut pas être transformé en positif avec des évolutions dans la fabrication de la charcuterie ?
Les évolutions, ça fait longtemps qu'effectivement on est impliqué pour faire évoluer nos recettes de charcuterie. On a progressé sur les teneurs en sel, sur le nombre d'additifs réduits. Et je peux même vous dire que sur les nitrites, puisque c'est le sujet, en France, nous sommes définis une teneur maximale qui est de 40% inférieure à la teneur réglementaire européenne, puisqu'il faut savoir que les nitrites sont autorisés partout dans le monde, mais notamment en Europe, avec des seuils minimaux que nous avons décidé volontairement de nous appliquer de manière, des seuils inférieurs.
Merci beaucoup Fabien Castagnier, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à vous, bonne journée. On va à Paris, place de l'Étoile à Paris. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'Arc de Triomphe emballé par les équipes de l'artiste Feu Christo. Il avait déjà emballé le Pont Neuf avec d'immenses morceaux de tissu, vous avez certainement vu les images. Ça fait polémique à Paris, certains trouvent que les 14 millions d'euros d'argent privé auraient pu être dépensés autrement. Johanna Chabat sur place pour Europe 1. Johanna, qu'est-ce qui se dit chez les gens que vous avez rencontrés ? Est-ce qu'ils trouvent ça joli ou pas ?
Eh bien, ils sont absolument ravis car ça y est, tout le monument est recouvert d'un tissu argenté qui reflète la lumière du soleil et ondule avec le vent. Des ouvriers descendent progressivement en rappel sur une des façades pour bien accrocher tout ça. Au niveau du sol, les curieux ont le nez levé au ciel, intrigués. Ils prennent des photos de l'œuvre de Christo. Michel vient voir l'avancée du projet tous les jours.
Déjà, ça le rend beaucoup moins sévère. C'est un magnifique drapé. Je pense qu'il va très très bien prendre la lumière. Et c'est comme un énorme paquet cadeau. Et Christo nous fait des cadeaux à chaque fois qu'il emballe un monument. C'est un travail de titan et d'une précision incroyable. C'est magnifique.
Cette œuvre, Christo l'avait imaginée en 1961, mais décédé l'année dernière, il ne la verra jamais. Le projet a coûté 14 millions d'euros, entièrement financé par la vente des œuvres de l'artiste, ce qui ravit Coraline.
Quand j'ai entendu le prix, sur le coup, je me suis dit, je pense un peu comme tout le monde, qu'on aurait peut-être un peu mieux fait de mettre de l'argent ailleurs. Maintenant, ça vient de la fondation même de l'artiste, donc ça ne coûte pas un centime aux contribuables. Et ça permet de faire profiter à tous d'une œuvre artistique monumentale, fabuleuse, extraordinaire. Après tout ce qui s'est passé avec le Covid, ça peut permettre aussi de relancer une part du tourisme à Paris.
3000 mètres de cordes rouges sont encore à installer pour définitivement empaqueter l'Arc de Triomphe. Tout doit être prêt pour samedi, jour de l'inauguration. Pendant les week-ends, la place de l'Étoile sera entièrement piétonnisée pour permettre aux visiteurs de profiter au mieux de l'œuvre de Christo.
Merci beaucoup, Johanna, en direct. Voilà, la circulation interdite pendant 3 week-ends, place de l'Étoile. Ça ne va pas être bon pour la circulation. Attention, si vous êtes automobiliste, je souris, mais ça fait pas rire tout le monde. Allez, la météo, le temps, tout de suite avec Anissa. Ça a dit prudence avec le retour des orages. Hein.
Oui, malheureusement, les orages sont de retour cet après-midi. Alors, si vous nous écoutez le long de la façade atlantique entre le Finistère et le Pays Basque cet après-midi, vous constatez déjà que le ciel est en train de s'assombrir. Eh bien, ces nuages assez épais viennent d'une dépression qui se creuse dans le golfe de Gascogne et qui nous apporte donc beaucoup d'instabilité cet après-midi. Donc, attention sur la Nouvelle-Aquitaine, les orages arrivent en fin de journée. On a quelques averses déjà cet après-midi. Ces orages sur l'Aquitaine et l'Occitanie pourront être localement assez violents. On attend même des averses de grêle. Au bord de la Méditerranée, les entrées maritimes de ce matin ont du mal à se dissiper. Donc on a encore quelques nuages entre le Languedoc et les Bouches-du-Rhône. Des nuages qui pourront lâcher 2-3 gouttes. Et puis au nord de la Seine, sur les Hauts-de-France, la Normandie, les Ardennes, la région parisienne, là on a aussi quelques nuages qui se développent cet après-midi. Les températures restent toujours très chaudes, avec 34 degrés à Mont-de-Marsan, 33 à Bordeaux, 31 degrés à Périgueux, 30 à Clermont-Ferrand, 27 à Paris et 22 degrés pour Lille.
Merci beaucoup Anissa, 12h56, restez bien sur Europe 1 dans un instant. C'est la France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Nous on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. À demain, bon après-midi sur Europe 1.